chantons notre Rédempteur. Quelle joie, n'est-ce pas? Celui qui est venu sur la terre pour nous racheter, c'est tellement merveilleux. Et quelqu'un qui l'avait vu, qui avait expérimenté de près cet amour, cette vie de Jésus, c'était l'apôtre Pierre. Et par la suite, il a écrit deux lettres. Et ces deux lettres, nous les avons dans notre Bible. Et c'est cette première lettre, la première épître de Pierre que nous examinons depuis quelque temps déjà. Et nous y revenons aujourd'hui. Alors, la première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3. Et je dois avouer qu'en examinant ce passage, j'étais confronté à une difficulté, enfin plusieurs difficultés. La première, c'est qu'on a l'impression depuis le début du chapitre 3 que Pierre, il commence une pensée et il a vraiment du mal à la terminer. Il s'enchaîne et il dit voilà, il y a ça. Et parce qu'il y a ça, il y a ça. Et ainsi de suite. Donc ça rend un peu des divisions dans le passage un peu difficile, puisque pour faire justice, il faudrait prendre le chapitre en entier. Bon, on n'a pas vraiment le temps pour le faire, donc on va prendre par morceaux. Et puis, il va étroitement lier ces différents aspects du passage. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va revenir sur un verset que nous avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur seulement deux versets. C'est tout. Puisque si on va plus loin, Pierre, il continue jusqu'à la fin du chapitre, en fait. Et donc, voilà, ce sera à découvrir par la suite. Mais aujourd'hui, les versets 8 et 9. Et vous allez voir que, quand même, même si ce sont de courts versets, ce sont des versets remplis à la fois d'enseignements, d'encouragements, pour nous aujourd'hui. Alors, si vous y êtes, la première épître de Pierre, chapitre 3, les versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous demandons ton aide pour la comprendre. Que tu ouvres notre intelligence, que notre cœur soit réceptif à ce que tu as pour nous et qu'il soit évident que c'est ton esprit qui travaille le cœur de chacun et que tu continues d'accomplir cette œuvre que toi tu veux, que toi tu as commencé et que tu vas parfaire jusqu'à ton retour. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Ce verset 8 s'inscrit surtout dans un contexte familial. Si on se souvient les premiers versets de ce passage, Pierre est en train de s'adresser aux maris, aux femmes, et pour leur dire ayez des rapports harmonieux. La femme, soyez soumise à votre mari. Mari, ayez de la sagesse dans vos rapports. Donc nous voyons qu'on est bien dans un contexte familial, mais en même temps un contexte de famille qui se trouve dans l'Église. Puisque, souvenons-nous, Pierre, son intention, c'est d'écrire aux chrétiens. Et pas simplement aux chrétiens dispersés à droite et à gauche, mais des chrétiens rassemblés. Et nous sommes aujourd'hui des chrétiens rassemblés dans ce lieu. Alors, Pierre parle à nous également. Et nous faisons tous partie d'une famille. Aujourd'hui, sans exception, chacun fait partie d'une famille. Qu'on soit marié ou pas, qu'on ait fondé un couple, on fait partie quand même d'une famille. On a des parents, on a des frères et sœurs peut-être, à moins qu'on soit enfant unique. Et nous voyons que ces versets s'adressent à nous. Et en plus, verset 8, Pierre va dire « Soyez tous ». Alors, est-ce que cela laisse la possibilité d'exclure ? si on parle de tous ici, personne n'a le droit de dire « Ah, ça ne s'applique pas à moi. Ah, moi, je suis l'exception qui confirme la règle. Hein? » Ici, Pierre dit « Je veux que ceci s'applique à vous tous. Et voici ce que je veux. » Et nous en avons parlé la semaine dernière, mais je veux revenir là-dessus parce que c'est tellement important pour notre vie aujourd'hui. D'être animé, comme il dit, d'être uni, d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de la chose. Cela est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents des uns des autres. Nous avons des centres d'intérêt différents. Par exemple, moi j'aime bien les voitures. Si je vois une Porsche, un Jaguar, une Corvette qui passe, ben là, tout de suite, je tourne la tête, hein, parce que j'aime bien les voitures. D'autres n'ont qu'à que faire des voitures. C'est leur droit. Ils ont le droit d'avoir tort. Bon. D'autres ont d'autres centres d'intérêt. D'autres aiment bien le foot. D'autres aiment bien le sport. D'autres aiment, et là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Nous avons des centres d'intérêt différents. Nous avons des personnalités différentes. Contrairement à ce qu'on peut croire, je suis plutôt timide de caractère. Hein? Ça surprend certains, mais c'est vrai. D'autres sont beaucoup plus ce qu'on appelle extravertis. D'autres vont beaucoup plus facilement vers les autres. Beaucoup commencent des conversations dans la rue beaucoup plus facilement. Alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons des contextes familiales différents. Vous avez grandi dans une famille, avec des parents qui vous ont enseigné de telle ou telle façon. Bonne, mauvaise, on n'est pas là pour discuter là-dessus, mais voilà. Nous sommes, entre guillemets, le produit de ce contexte familial. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Nous n'avons pas tous le même âge. Certains sont plus âgés, d'autres moins. Et pourtant, malgré toutes ces différences, nous sommes appelés, si nous sommes sauvés, et disons-le clairement, ici, Pierre sous-entend que les personnes auxquelles il écrit sont sauvées, sont nées de nouveau. Et si tel est le cas, Pierre montre que nous avons l'obligation, sans aucune exception, d'être animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Et il va décrire un peu en quoi cela consiste. Et encore une fois, nous avons vu ça un peu la semaine dernière, mais c'est tellement important qu'il faut y revenir, puisque avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, avec toutes nos différences, qu'est-ce que cela veut dire ? Puisque moi, j'ai certaines pensées, vous en avez d'autres. Moi, j'ai des sentiments, vous en avez d'autres. Et ces choses ne s'accordent pas toujours. Alors, qu'est-ce que Pierre, lui, il voulait expliquer à ces chrétiens du 1er siècle ? Ben, il va l'expliquer dans la suite du verset. Plein d'amour fraternel. Cet amour qui se donne pour les autres. Cet amour qui se sacrifie. Cet amour qui prend de son temps. Cet amour qui prend de ses ressources et les met à disposition des autres. Si il y a un groupe par-dessus tout qui doit montrer de la solidarité, qui doit manifester ceci, ben c'est bien des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Dans notre pays, on aime bien parler de la solidarité. On dit liberté, égalité, fraternité. Et nous voyons que ce monde manque cruellement de solidarité, de fraternité. Mais parmi les enfants de Dieu, ça ne doit pas être le cas. Nous sommes appelés à concrètement montrer cet amour fraternel en donnant un coup de main, en aidant financièrement, en donnant de son temps, en transmettant peut-être un savoir-faire. En passant du temps tout simplement à discuter avec quelqu'un. Vous savez, parfois, les gens, ils ont besoin d'être écoutés. Et d'être là à l'écoute, c'est une façon de montrer concrètement cet amour fraternel les uns envers les autres. Et Pierre, il poursuit, puisque, en plus de parler de cet amour fraternel, ben, cette compassion. Et cette compassion aussi doit démarquer les chrétiens de ceux qui les entourent. Le monde actuel manque de compassion, de réelle compassion. On va dire, ben, les gens, ils se créent leur propre misère. S'ils n'avaient pas fait tel ou tel choix, ben, ils ne seraient pas dans cette situation, alors ils n'ont qu'à s'en sortir tout seuls. Et parce que cet esprit se répand autour de nous, il est facile de tomber là-dedans. Et pourtant, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à manifester cette compassion. Il y a la misère dans le monde à cause du péché, à cause des mauvais choix des personnes. Et il est vrai, parfois, les gens, ils créent leur propre misère. Soyons honnêtes, parfois, les gens, ils font de mauvais choix et ils subissent des conséquences de ces choix. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons le droit de dire « Ben, tant pis pour eux, moi je passe à autre chose. » L'enfant de Dieu doit être rempli, plein de compassion. Je suis frappé en lisant les évangiles par cette expression « Jésus, voyant les foules, était rempli de compassion. » À deux reprises, il était rempli de compassion à un tel point qu'il ne voulait pas renvoyer toutes ces personnes chercher de la nourriture. Il dit à ses disciples « Donnez-leur à manger vous-même. » Et je me mets à la place des disciples. Je me dis « Mais... » Et eux aussi, ils ont dit, mais on n'a que peu de ressources, quelques pains, quelques poissons. Ce sont littéralement des milliers de personnes. Même si quelqu'un prenait juste quelques miettes, ce ne serait pas suffisant. Mais bien sûr, Jésus savait qu'il allait pourvoir, mais il était rempli de compassion. Et comme nous devons ressembler à Jésus, nous aussi, face à la misère qui nous entoure, mais aussi face à la misère qui, par moments, touche nos frères et sœurs. Parce que, souvenons-nous, ici, Pierre dit, bah, ceci doit se manifester entre nous. Bien sûr, à l'extérieur, mais entre nous. Cet amour fraternel, cette compassion doit se manifester. Compassion, lorsque nos frères et sœurs font de mauvais choix. Vous savez, il arrive aux chrétiens de pécher. Il arrive aux chrétiens de se tromper, de faire un mauvais choix et ainsi s'en trouver mal. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Juger cette personne en disant, bah, c'est sûr, tu as manqué de confiance en Dieu, tu es tombé dans le péché, bah, tant pis pour toi. Non. Paul, lui, il va l'expliquer ainsi. Si quelqu'un vient être surpris dans une faute, vous qui êtes spirituel, relevez-le. Un frère, une sœur en Christ qui tombe dans le péché ne doit pas subir le jugement de l'Église dans le sens où on l'oppresse, on lui, entre guillemets, tape dessus de manière figurée, mais doit bénéficier de notre compassion. Nous ne devons jamais excuser le péché, comprenons bien, soyons clairs là-dessus. Mais il me semble que par moment, lorsque nos frères et sœurs font de mauvais choix, et cela arrive, lorsque nous faisons de mauvais choix, il y a un manque de compassion, un manque de recherche de restauration pour ces personnes. Et Pierre dit, nous devons être remplis de compassion. Et puis, il termine cette liste en disant d'humilité. D'humilité pourquoi? Bah parce que nous reconnaissons que nous sommes vulnérables. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Et si ce n'est que pour la grâce de Dieu, nous serions tombés également. Humilité parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Humilité parce que nous reconnaissons que nous sommes au service de Dieu. Cette humilité doit être manifesté entre nous. Ne pas regarder soi-même au-dessus de ce qu'on est. Paul, il va en parler aux Romains, il va en parler aux Philippiens. De se regarder justement comme Dieu nous voit, sauvés en Jésus-Christ. Ceci élimine toute possibilité d'orgueil. de dire « Ah, je me suis fait moi-même !» Non, 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 non. C'est par la grâce de Dieu, comme dit Paul, que je suis ce que je suis. Et c'est sa grâce qui travaille en moi. Et cela doit être notre témoignage. Et ce ne sont pas simplement de belles paroles qu'on dit et qu'après on sort de l'église et on vit tout autrement. Non, ceci se vit parmi nous. Cela est évident, il faut. Mais ceci se vit à l'extérieur aussi. Lorsque nous allons au travail et nous sommes confrontés avec des personnes qui ne sont pas compatissantes, qui ne sont pas humbles, qui manquent d'amour, notre témoignage doit être que nous manifestons ces choses. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont Paul il va le dire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et là, il met la barre très haute. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'humilité, il n'a pas cherché à garder sa place au ciel à tout prix, comme si on devait la lui arracher. Non, non, il a délaissé volontairement. Il est venu sur la terre, il s'est rendu semblable à un serviteur, un esclave. Et il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. Et Paul dit, ce sont ces sentiments-là que nous devons avoir. Et Pierre dit, ayez les mêmes sentiments. Et il rejoint Paul en disant cela. Lorsque nous sommes tous dans cette optique-là, ces sentiments d'amour fraternel, d'humilité, de compassion, croyez-moi, ce sera vu. Notre Église sera connue comme un endroit radical. Parce que le monde autour de nous ne reflète pas ces choses. Mais entre nous, ça doit se faire. Ça doit commencer à la maison, comme nous en avons parlé la semaine dernière, déjà entre mari et femme, les parents avec les enfants envers les parents. Ça doit commencer chez nous, et puis ça se verra dans l'église. Et ensuite, ça se verra à l'extérieur. Malgré nos différences qui, d'ailleurs, disons-le, sont voulus de Dieu. Moi, je loue le Seigneur pour la variété que je vois dans la salle aujourd'hui. Déjà, la salle, elle est remplie. Gloire à Dieu. Ça encourage toujours. Mais je regarde la salle et je me dis, il y a des personnes d'un peu tous les arrière-plans, de tous les âges. C'est formidable. Ne nions pas les différences que nous avons. C'est quelque chose de voulu de Dieu. En même temps, ne permettons pas que ces différences nous éloignent les uns des autres. Non, malgré nos différences, nous devons être unis en Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ doit être au centre, nous pouvons être unis. Le monde cherche l'unité par tous les moyens. Là, cette semaine, ou c'était la semaine avant, vous avez certainement entendu parler, les deux Corées, cette rencontre extraordinaire, inouï, qu'on n'attendait jamais. Le dictateur du Corée du Nord, le président du Corée du Sud, ils se sont rencontrés, ils se sont serrés la main, ils ont parlé. Parce qu'on cherche l'unité, on cherche la paix. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons une unité, une paix qui est tellement au-delà de tout ce que les hommes pourraient apporter. Si jamais il y a la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce sera formidable. Mais ce n'est rien à côté de la paix que Dieu peut apporter. Ce n'est rien à côté de la paix qui doit exister entre les enfants de Dieu. Cette unité, cette même pensée, ces mêmes sentiments doivent nous caractériser. Et doivent nous caractériser tous, sans exception. Ceci élimine tout dissentiment. Ceci élimine toute indifférence. Vous savez, parfois, on n'est pas ouvertement hostile, on n'est pas ouvertement en conflit, mais on est indifférent. Et c'est presque pire par moment. Et ici, Pierre dit, ce n'est pas possible, ça ne devrait pas se faire pour les enfants de Dieu. Et au verset 9, après avoir dit tout cela, Pierre reconnaît que peut-être quelqu'un pourrait émettre des objections, pourrait dire « Ah Pierre, c'est bien beau ce que tu dis. Tu vis, Pierre, dans un monde de bisounours. Et voilà, c'est pas possible parce que la réalité fait que il y a des gens qui ne sont pas gentils avec moi. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont hostiles envers moi. Et je voudrais bien être gentil, aimable, compatissant, montrer l'amour envers quelqu'un qui agit comme ça envers moi. Mais quelqu'un qui veut du mal contre moi, à ce moment-là, j'ai le droit, se dit cette personne, de lui rendre l'appareil. De faire comme lui, il m'a fait. Il le mérite bien quand même. Il m'a fait du mal, c'est pas bien. Alors, voilà, je lui rends ce mal. Et Pierre dit, non. Ce n'est pas possible. Verset 9, ne rendez point le mal pour le mal. On manifeste ces mêmes pensées en ne rendant point le mal pour le mal. Alors, c'est le mot le plus générique pour mal. C'est tout mal qui pourrait arriver. Soit volontairement ou involontairement. Vous savez, parfois, les gens, ils agissent et ça nous blesse, ça nous fait du mal, mais ce n'était pas volontaire. Et Pierre dit, peu importe, quelqu'un nous fait du mal, nous n'avons pas le droit, en tant qu'enfants de Dieu, de rendre le mal, de rendre l'appareil. Et lorsque nous lisons cela, on se dit, mais Pierre, où est-ce que tu vis? Tu ne vis certainement pas dans le monde dans lequel moi je vis. Parce que ce monde nous veut du mal. Les collègues de travail non chrétiens, parfois, nous agressent. J'espère pas physiquement, mais peut-être verbalement. Cette société dans laquelle nous vivons fait tout pour aller à l'encontre de nos valeurs bibliques. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle doit être notre manière d'agir? Quelle est notre réaction? Quand quelqu'un me fait le mal, ma réaction première sera sûrement de vouloir lui faire du mal, de rendre l'appareil. Mais je ne devrais jamais céder à ce désir. Ce désir, il sera peut-être réel. Lorsqu'on me fait du mal, il est, entre guillemets, normal que je souhaite rendre l'appareil. Lui faire exactement comme lui m'a fait, sinon un peu plus. Mais pour l'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de céder à ce désir. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure, les insultes, les petites remarques, les petites phrases qui peuvent blesser. Nous n'avons pas le droit de répondre de la même façon. Et encore une fois, souvenons-nous, Pierre ici, il sous-entend que ce sont des chrétiens. Il sous-entend que ici, ça pourrait se passer entre chrétiens. C'est totalement anormal. Ça ne devrait jamais arriver. Et pourtant, la réalité, c'est que malheureusement, ça arrive. Parfois, nous nous blessons les uns les autres. Ne nous voilons pas la face. Parfois, on aime bien donner cet aspect de, entre guillemets, de sainteté, de perfection. Et pourtant, ce n'est qu'une façade. Les chrétiens peuvent faire du mal, peuvent injurier, peuvent blesser les uns les autres. C'est triste, mais c'est une réalité. Et lorsque cela arrive, parce que Pierre dit ici, on va vous faire du mal, on va vous injurier. Quand cela arrive, combien même ça viendrait d'un frère ou d'une sœur en Christ, vous n'avez pas le droit de répondre exactement de la même façon. C'est pas possible. Et lorsqu'on le fait, ça veut dire que nous ne sommes pas en train d'agir comme Dieu veut. Pierre va expliquer dans ce passage qu'à ce moment-là, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est naturel de rendre l'appareil, de faire à la personne comme elle m'a fait. Ça, c'est naturel. C'est inné. Ce qui est surnaturel, ce qui vient de Dieu, c'est d'agir comme Pierre va expliquer dans la suite de ce verset. Mais prenons cette résolution aujourd'hui. Lorsque quelqu'un va me faire du mal, parce que cela viendra tôt ou tard. Lorsque quelqu'un va me faire du mal, lorsque quelqu'un va dire, va faire quelque chose qui me blesse, à ce moment-là, je prends la décision, par la grâce de Dieu, de ne pas rendre l'appareil, de ne pas agir de la même façon. Ceci est valable pour les couples, mari, femme. Ceci est valable pour les frères et sœurs dans l'église. Le dimanche matin, le mardi soir, à chaque fois que nous nous réunissons, ceci est valable. Cet après-midi, après le culte, on aura le repas fraternel. Il y aura peut-être, pour ne pas dire sûrement, la possibilité de mettre ceci en pratique. Quelqu'un va peut-être vous frustrer. Quelqu'un va peut-être ne pas faire les choses exactement comme vous voulez. Quelqu'un va agir ou dire, ou donner un regard. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Pierre dit, on a ces mêmes sentiments, ces mêmes pensées, et cela fait que nous ne rendons pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Mais il va plus loin, puisque il dit, au contraire, bien sûr, on ne fait pas ça. Et il ne s'agit pas de dire, c'est pas bien, ne faites pas ça. Non, Pierre dit, voici ce que vous devez faire. Au contraire, bénissez. Bénissez. Appelez la bénédiction de Dieu sur la personne. Est-ce que vous vous rendez compte combien c'est radical? Cherchez le bien de quelqu'un qui vous veut du mal. C'est quand même incroyable. À la limite, si cette personne elle est indifférente, si cette personne me veut du bien, alors là, pas de souci, je lui veux du bien. Pas de souci. Mais là, cette personne me veut du mal. Et moi, je suis appelé en tant qu'enfant de Dieu à appeler la bénédiction de Dieu sur cette personne. Ça, c'est radical. Et c'est aussi surnaturel, dans le sens que ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Il dit, bénissez au contraire. Et puis, il va continuer avec une phrase que nous avons déjà vue, et j'aimerais attirer votre attention là-dessus. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. On parle par moment de l'appel de Dieu. Souvent, c'est dans un contexte de ministère. Quelqu'un que se sent appelé au ministère, se sent appelé en tant que pasteur, missionnaire et tout. Et cela est juste. Par contre, deux fois, Pierre, dans cet épître, il va parler de l'appel de Dieu. C'est ici, c'est à cela que vous avez été appelés. À quoi? À bénir ceux qui nous maudissent, à bénir ceux qui nous veulent du mal. Mais également, si on retourne une ou deux pages dans votre Bible au chapitre 2, la deuxième moitié du verset 20, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelé. Appelé à souffrir? Non, c'est pas possible. Non, ça, je ne veux pas ça. Et pourtant, mes amis, nous avons été appelés parfois, pas toujours, heureusement, mais parfois à souffrir. Même lorsque nous faisons le bien. Encore, Pierre va dire, si on souffre parce qu'on fait le mal, ça c'est normal. Pas de souci avec ça. Mais souffrir alors qu'on fait le bien? Et pourtant, oui. Et il va dire, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Les enfants de Dieu sont appelés parfois à la souffrance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si la Bible ne le disait pas, croyez-moi, je ne le dirais pas. Ce n'est pas un message qu'on aime annoncer, mais la Bible le dit. Mais nous sommes aussi appelés à bénir, à faire du bien, à appeler la bénédiction de Dieu sur ceux qui nous font du mal. Et cela est extraordinaire, parce que au-delà de la méchanceté, au-delà de cette réaction de vœu du mal à la personne, au-delà de l'indifférence dans notre cœur, ce qui doit caractériser l'enfant de Dieu face au mal qu'il subit, c'est une réaction positive. Ce n'est pas l'indifférence en disant « ça ne me fait rien et puis je ne fais aucun cas de cette personne et tout ». Non, c'est « je recherche activement le bien de cette personne » alors que cette personne est activement en train de rechercher le mal pour moi. C'est extraordinaire. Et Pierre dit « c'est à cela que vous avez été appelés ». Vous vous rendez compte du privilège que nous avons de témoigner de la grâce de Dieu lorsque nous réagissons de cette façon. Parce que le monde ne verra pas ceci ailleurs. Ce ne sont pas des gourous, des personnes qui essaient de s'aider soi-même avec 5 étapes pour améliorer votre vie. Venez à ma séance et puis je vous enseignerai comment vous épanouir, être heureux et tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont pouvoir apprendre et apporter ce genre d'enseignement. Cet enseignement, il est unique dans la Bible. Et lorsque nous réfléchissons à notre vie, entre frères et sœurs, est-ce que je suis continuellement et activement en train de rechercher le bien de mes frères et sœurs, de bénir, d'appeler la bénédiction de Dieu sur eux, alors que peut-être certains d'entre eux ne m'aiment pas. Certains d'entre eux sont indifférents vis-à-vis de moi. J'ai l'obligation en tant qu'enfant de Dieu de continuer de les bénir. Cet appel de Dieu s'étend à tous. Ce n'est pas une élite spirituelle. Ce n'est pas juste le pasteur. Ce n'est pas juste des personnes qui ont tant d'années de vie chrétienne. Ceci s'applique à tous. Et ça doit être vu dans l'Église, parmi les frères et sœurs en Christ. Et encore une fois, lorsque le monde autour de nous nous voit agir comme ces versets, il y aura de grands changements. Ça va leur faire arrêter. Ils vont se dire, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Il y a quelque chose que nous n'avons pas, ils vont dire. Parce que le monde voit que par moments, ça ne se passe pas bien entre frères et sœurs. Vous savez, les gens qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas bêtes. Ils comprennent. Ils nous voient. Ils savent quand ça ne se passe pas bien. Ils savent et ils voient lorsque nous réagissons mal vis-à-vis de quelqu'un. Mais imaginez, ils voient une situation où un chrétien ou quelqu'un qui se dit chrétien fait du mal à un autre chrétien. Et là, dans leur esprit, ils se disent « Ah, je sais comment cette personne va réagir. » Et puis, c'est tout le contraire. et se disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Et voyez-vous, la possibilité de témoigner, de dire, ben, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait ça. Et Pierre, à la fin de ce verset, va dire, ben, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est dans le but, finalement, que Dieu nous bénisse. Trop souvent, nous nous trompons. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous cherchons à être bénis nous-mêmes. Et nous laissons un peu de côté les autres. Oui, peut-être on fait quelques petites choses, mais si on est honnête, on se rend compte qu'on se concentre vraiment sur soi-même. Et ici, Pierre dit, il faut activement rechercher la bénédiction sur les autres. Et lorsqu'on fait ça, bah, Dieu lui-même s'engage à nous bénir. Et en écrivant ceci, je suis convaincu que Pierre pensait à ce que Jésus avait dit dans les évangiles. Pierre était là lorsque Jésus a donné ce qu'on appelle les béatitudes. Matthieu chapitre 5, 6, 7. Et dans ce passage, Jésus a dit « Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et je suis convaincu que Pierre n'est pas resté indifférent face à cela. Et ici, en écrivant à ces chrétiens, il puise dans ce qu'il avait entendu de la part de Jésus. Et nous voyons que Jésus nous donne l'exemple. Par Jésus, c'est possible. Comme nous avons parlé la semaine dernière, ce que Pierre explique dans ce passage n'est pas quelque chose d'idéal, quelque chose hors d'atteinte, une belle perspective, mais que nous n'atteignerons jamais ici. Si Pierre explique ces choses, c'est parce que c'est possible aujourd'hui. Et c'est aussi parce que nous sommes confrontés à cette situation tous les jours. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises, qui parfois nous affectent directement, indirectement. Et parce que nous vivons dans ce monde, parce que nous ne réagissons pas toujours comme nous devons, parce que parfois nous faisons le mal envers les autres, parfois les autres font le mal envers nous, nous avons besoin aujourd'hui de ce passage. Et ce qui est formidable, c'est que nous pouvons avoir la victoire. La victoire, elle est là. Nous ne sommes pas voués à l'échec. Combien même nous avons échoué hier? Combien même nous avons échoué ce matin? Je ne sais pas comment était votre matinée avant de venir à l'église. Peut-être que vous étiez confronté à ceci avant de venir à l'église. Possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est l'après-midi. Nous serons ensemble. Il y aura sûrement des occasions pour mettre ceci en pratique. Qu'allons-nous faire? Ce que Dieu veut pour nous, c'est de nous bénir. Dieu nous veut du bien. Dieu ne nous veut jamais du mal. C'est nous qui empêchons cette bénédiction parce que nous réagissons mal, parce que nous manquons d'amour, parce que nous manquons d'humilité, parce que nous manquons de compassion. Et ce changement doit commencer ici. Nous disons souvent que nous devons être différents du monde. Et c'est vrai. Nous sommes différents, souvent par la façon dont nous nous habillons, souvent par la façon dont nous parlons, par les activités que nous choisissons. Mais Pierre ici explique dans ce passage que la façon la plus concrète et la façon la plus visible pour se démarquer de ce monde, c'est ici. Les relations entre nous. Imaginez si aujourd'hui, chaque enfant de Dieu dans cette salle, jusqu'à la fin de la journée, ne cherchait que de faire du bien à tout ce qui l'entourait. Sans essayer de justifier quelque décision que ce soit, mais qui disait en son cœur, « Dieu, par ta puissance, avec ton aide, je vais faire le bien, je vais bénir autour de moi aujourd'hui. » Imaginez. C'est possible. Par l'aide de Dieu, cela est possible. Ce n'est pas une utopie, une perfection qui ne sera jamais atteinte. Non, c'est possible. Encore une fois, ici, Pierre s'adresse à des chrétiens, des enfants de Dieu, des personnes qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Parce que sans cela, tout ceci est impossible. Aucune amélioration. Aucune possibilité de mettre ces choses en pratique. Si on n'a pas accepté Christ comme son sauveur personnel. Aujourd'hui, peut-être le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu appelle. Il appelle premièrement au salut. Et nous pouvons être sauvés aujourd'hui si nous ne le sommes pas. Mais si on a accepté Christ comme son sauveur personnel, ceci s'applique à vous, à nous tous. Et quelle gloire, quel honneur Dieu obtiendrait. Quel témoignage nous pourrions avoir, quel impact si nous prenions cette décision. Que par la foi, je demande à Dieu de m'aider à chercher le bien. Pas simplement envers ceux qui me font du bien, mais même envers ceux qui me font du mal. Et je prends cette décision aujourd'hui. Et je me lève demain matin en sachant qu'il y aura des gens difficiles auxquels je serai confronté. Alors je reprends cet engagement. Aujourd'hui, Dieu, je veux faire du bien. Et le lendemain. Et ainsi, j'en fais une habitude parce que c'est Dieu qui me fortifie. Je vous prie de croire que les résultats seraient énormes. Non pas parce que nous l'aurions fait, mais parce que Dieu l'aurait fait. Mais la décision nous appartient. On ne tordra pas le bras. Dieu ne vous tapera pas sur la tête, ni de manière figurée, ni de manière physique. En disant, faites ceci. Par contre, il lance cet appel. Voici ce que j'attends. Mon enfant, obéis-moi. Quel sera notre choix ? À chacun de décider et que Dieu nous donne par sa puissance de mettre ce choix en pratique à chaque instant. Prions pour demander son aide. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre incapacité, notre faiblesse, notre désir naturel de mal réagir. Nous reconnaissons notre besoin de ton aide, de ta puissance, pour toujours bénir et non pas maudire. Nous implorons cette aide, nous demandons ta puissance afin de bien réagir et ainsi être des témoins pour toi. Je prie qu'il soit évident que c'est ta puissance qui nous anime tous. Je prie que tous, aujourd'hui, ici, puissent avoir l'assurance de leur salut, la certitude qu'ils t'appartiennent. Et Seigneur, qu'à travers cette journée, cette semaine devant nous, nous cherchions le bien, nous fassions le bien, parce que c'est à cela que tu nous appelles et que nous répondons à cet appel. Et que toute l'honneur et toute la gloire puissent te revenir parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen.